Les Années-Lumière, édition du 21 juin 2009. La maladie de Lyme s'en vient chez nous, mais sommes-nous prêts à y faire face? Bonjour, bienvenue, ici Chantal Srivastava. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette première édition estivale de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Plusieurs sujets d'été pour vous aujourd'hui, à commencer par la maladie de Lyme. Gaëlle Lucia Berdou, doit-on s'inquiéter de l'attraper si une tique nous pique?
En tout cas, celles qui peuvent transmettre cette maladie sont de plus en plus présentes chez nous et les médecins vont devoir s'adapter.
Puis je vous parlerai des martinets ramoneurs, de petits oiseaux qui nichent dans les cheminées et qui sont menacés de disparaître. Leur nombre a baissé, imaginez, de 95% en 40 ans. Il n'en reste plus que 12 000 au pays. Place ensuite au courrier des Années-Lumière avec une question qui tourne en rond, Hugues de Grossin.
Oui, les planètes, la Lune, les étoiles, les galaxies tournent, on le sait, mais l'univers, lui, est-ce qu'il tourne? C'est la question d'un auditeur de Elmer au Québec.
Et pour terminer la première heure à la chronique des Années-Lumière en rappel, un énoncé sociologique sur l'herbe à poux, gracieuseté d'Yves Gingras, historien des sciences. Puis, en deuxième heure, place aux stars des étoiles, notre nouvelle série d'été. Pour souligner l'année mondiale de l'astronomie, nous vous ferons découvrir des grands personnages qui ont marqué l'astronomie au fil des siècles. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre de Johannes Kepler, Sophie-André Blondin.
Oui, il y a 400 ans, 1609, Galilée observe, mais Kepler explique. L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet nous raconte.
Nous vous dirons ensuite comment l'art visuel peut devenir une forme de thérapie. Et pour conclure, vous recevrez l'auteur de la semaine, Hugues.
Oui, le titre du livre « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique » paru aux éditions Multimonde. Le livre est co-signé par Bernard Saussier et Réal Reed, deux ingénieurs qui ont travaillé pendant plus de 20 ans à l'IREC, le Centre de recherche de Hydro-Québec.
Les plus petites mesurent à peine 1 mm, mais elles peuvent faire de gros dégâts. Ce sont les tiques à pattes noires, ou Ixodes scapularis pour les intimes. Des insectes qui vivent sur les terrains boisés et qui, quand ils piquent, peuvent nous transmettre la maladie de Lyme. Une maladie encore peu connue chez nous au Canada. Mais Gaëlle, Lucia, Berdou, heureusement que vous êtes là pour nous aider à y voir plus clair.
On va essayer. C'est une maladie à déclaration obligatoire qui est encore peu fréquente chez nous. Au Québec, par exemple, les statistiques font état d'une dizaine de cas par année, pour la plupart qui sont attrapés ailleurs. Donc, c'est assez peu, mais la maladie de Lyme est très présente, notamment, pas très loin de chez nous, dans le nord-est des États-Unis. D'ailleurs, son nom vient d'une petite ville du Connecticut où cette maladie a été découverte dans les années 70. Elle est causée par une bactérie que les tiques à pattes noires peuvent transmettre à l'humain. Les premiers symptômes de l'infection sont relativement bénins. On parle d'une éruption cutanée, une sorte de rougeur qui est assez typique et qui survient quelques semaines après la piqûre. Et ça se soigne avec un simple traitement d'antibiotiques. Mais si ce traitement n'est pas fait, la maladie peut prendre une tournure plus grave. On parle de fièvre, de gros maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, même des palpitations cardiaques et des paralysies faciales, et j'en passe. Mmh. Et tout ça à cause d'une simple piqûre d'insecte.
Sauf que l'insecte, dit-on, est de plus en plus présent chez nous, Gaëlle.
Oui, on trouve des tiques à pattes noires en Ontario depuis une vingtaine d'années maintenant, mais ailleurs au pays, elles sont en train de s'établir. C'est la conclusion d'une revue de littérature publiée la semaine dernière dans le Journal de l'Association médicale canadienne. Cette espèce est maintenant présente dans le sud de la Colombie-Britannique et du Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ben, c'est en Montérégie qu'on en trouve le plus. Et c'est une situation que suit l'Institut national de santé publique du Québec d'assez près grâce à un programme de surveillance pan-canadien de ces tiques auquel il participe, qui est en place depuis près de 20 ans maintenant.
Alors justement, l'Institut peut aider, analyser donc les échantillons que des médecins et des vétérinaires leur enverraient.
Absolument. Les chercheurs vérifient s'il s'agit bien de l'espèce de tique potentiellement porteuse de la maladie de Lyme. Et à Winnipeg, un laboratoire fédéral détermine, lui, si la tique est effectivement porteuse de la bactérie. Et depuis quelques années, le nombre de tiques à pattes noires qui parviennent au laboratoire de l'Institut est en augmentation. L'année dernière, c'était même presque la moitié des tiques qui ont été envoyées qui étaient de l'espèce de la tique à pattes noires. Même si, quand même, il faut le dire, seulement à peu près 10% de ces tiques sont porteuses de la bactérie. Mais ça a suffi pour que les chercheurs décident d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils ont lancé une étude en Montérégie en 2007. C'est ce que nous explique la parasitologue Louise Trudel de l'Institut national de santé publique du Québec.
Dans notre programme de surveillance, on reçoit les adultes surtout. Les adultes qui piquent au printemps et à l'automne. Mais on a très, très peu de stades immatures de nymphes pour l'instant.
Ça veut dire qu'elles sont plus petites et plus difficiles à trouver?
Plus difficiles à voir. Par ailleurs, on peut les recevoir des autres espèces. Donc, on sait que les gens sont quand même capables de les repérer. Alors, c'est vraiment parce qu'elles ne sont pas aussi fréquentes que le stade adulte pour l'instant dans l'environnement. Mais pour voir plus précisément où sont les stades immatures, là, il faut aller sur le terrain, capturer des petits rongeurs, parce que ce sont les souris à pattes blanches surtout, les petits rongeurs en général, qui sont les hôtes des stades immatures. Donc, c'est là qu'on peut les retrouver. Et on peut aussi récolter celles, les tiques qui sont présentes dans l'environnement en passant un drap de flanelle sur la végétation, les hautes herbes. Et à ce moment-là, les tiques vont s'accrocher aussi sur ce morceau de tissu. Et donc, ça, c'est une façon plus efficace de récolter les stades immatures. Et effectivement, dans les deux dernières années, quand on a fait cette étude de terrain-là en Montérégie, on a pu voir que les larves étaient présentes dans l'environnement, les nymphes également. Donc, on commence d'ailleurs dans notre programme de surveillance à recevoir quelques nymphes à chaque année. Les nymphes piquent surtout durant l'été, fin du printemps, durant l'été.
Qu'est-ce que vous concluez de la présence de ces nymphes?
C'est qu'en étant en mesure de retrouver des stades immatures dans l'environnement, on peut conclure que ces populations-là sont en train de s'établir dans certaines régions du Québec. Parce que tant qu'on ne reçoit que des adultes, ça peut être tout simplement des tiques qui nous sont arrivées par les oiseaux migrateurs au printemps précédent en provenance des États-Unis, qui sont des régions endémiques, et qu'on retrouve sur le stade adulte à l'automne suivant parce qu'elles doivent se nourrir de sang à cette période-là. Mais tant qu'on ne voit pas de stade immature, on n'a pas de preuve que ces tiques-là ont passé l'hiver finalement ici, ont été capables de survivre, ont été capables de se reproduire pour redémarrer une nouvelle population et s'établir vraiment dans la région. Il faut vraiment que ces tiques-là soient établies pour que le nombre de stades immatures de nymphes en particulier qui peuvent nous transmettre la maladie soit suffisant pour qu'on soit à risque lorsqu'on se promène dans les régions boisées.
Mais maintenant, c'est le cas?
Les nombres sont encore faibles pour les nymphes. On sait qu'elles sont présentes, effectivement. On a beaucoup plus d'adultes. Lorsqu'on soit dans notre programme, ce sont des adultes. Mais on voit que c'est en progression. Je pense que c'est ce qui est à retenir, c'est qu'on a quand même un début de problématiques là, dans l'environnement.
Louise Trudel de l'Institut national de santé publique qui choisit prudemment ses mots. Gaëlle parle de problématique, début de problématique.
Une problématique à laquelle les médecins sont quand même de plus en plus confrontés. Et l'étude publiée la semaine dernière conclut aussi que ces médecins doivent augmenter leur vigilance pour que la surveillance de la maladie de Lyme soit efficace au Canada. On va entendre là-dessus le docteur François Millard, spécialiste en médecine communautaire à l'Institut national de santé publique, qui croit que la profession médicale va devoir changer ses perceptions.
C'est une situation, disons, qu'on découvre dans les dernières années, et il est important d'informer les médecins de cette situation-là. Je pense qu'actuellement, dans la communauté médicale du Québec, on a l'image que la maladie de Lyme, on peut pas l'attraper au Québec. Alors, disons, cette vision-là, il faut qu'elle soit modifiée. C'est possible d'attraper la maladie de Lyme au Québec. Ça reste un événement rare. C'est surtout possible si on visite, bon, des zones à risque peut-être dans le sud de la province. Donc là, il y a un changement de mentalité où la maladie de Lyme, qui reste une maladie rare, je pense qu'il faut le répéter, peut être acquise au Québec.
Que c'est difficile de changer ces mentalités-là dans la communauté médicale?
Oui, c'est un processus qui peut être difficile parce que, on est formé d'abord. Évidemment, les médecins sont formés avec une certaine base de connaissances sur différentes maladies. Pour les médecins, évidemment, les problématiques de santé qui sont rares, disons, je parle des médecins de première ligne ici, les problématiques de santé qui sont rares, évidemment, on n'est pas nécessairement à jour sur les dernières connaissances pour toutes ces maladies-là. Il y a trop de maladies différentes. Donc, il faut être comme exposé soit à un patient, soit à une situation particulière pour être appelé à se documenter sur une maladie plus rare. Par contre, les médecins spécialistes, comme ici on parlerait des médecins spécialistes en maladies infectieuses, eux sont généralement très à jour dans leur domaine de spécialité. Donc, je suggérerais qu'un médecin omnipraticien ou un médecin de première ligne qui est face à une problématique comme ça où il n'est pas tout à fait certain de la conduite à tenir, bien qu'il consulte un collègue spécialisé pour avoir toute l'information.
Le docteur François Miller de l'Institut national de santé publique. Gaëlle, il faut dire que c'est un diagnostic qui n'est pas évident à poser, hein, celui de la maladie de Lyme.
Non, c'est d'abord un diagnostic clinique en fonction des symptômes, donc l'éruption typique que l'infection provoque au début. Mais quand les symptômes deviennent neurologiques, par exemple, ça peut ressembler à toutes sortes d'autres maladies. En cas de doute, il existe des tests sérologiques, c'est-à-dire qu'on va examiner si certains anticorps sont présents chez les patients, mais ces tests sont parfois peu spécifiques et peuvent devenir difficile à interpréter. C'est ce qui fait dire à certains patients qui sont convaincus d'avoir attrapé la maladie de Lyme que les médecins au Québec et ailleurs au Canada ne sont pas équipés pour les soigner correctement. Et c'est le cas de Kevin O'Neill et de sa femme Moira Stevenson, deux étudiants montréalais. Ils sont certains d'avoir attrapé ça lors d'un voyage de camping en Colombie-Britannique en 2005. 6 mois plus tard, ils souffraient de douleurs atroces aux muscles, aux articulations, de vertiges aussi, à tel point qu'ils ne pouvaient plus marcher ou presque. Ils ont fait de multiples recherches avant de conclure eux-mêmes qu'ils avaient la maladie de Lyme. 3 ans plus tard, ils ont encore des douleurs de façon périodique et leur expérience dans les cabinets médicaux les a laissés de glace. On les écoute.
On était voir notre médecin de famille. Lui ne connaissait pas ça du tout. Il n'en connaissait rien, mais il nous envoyait voir un spécialiste. Lorsqu'on est arrivé, j'ai dit, hey, je pense que j'ai ça. Et il a dit, hey, ça, on n'a pas ça au Québec. Mm-hmm. Qu'il était hostile. Dès le début. L'expérience dans les prochaines 3 années, l'expérience s'est répétée avec d'autres médecins, yeah, dont infectiologues.
La même chose, le fait que ça n'existe pas ici?
Oui, c'est ça. Ça n'existe pas ici ou c'est extrêmement rare.
Il y a quand même un médecin ou des médecins qui ont accepté de vous tester?
Ils nous ont fait passer le test. Et le test est venu négatif. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas... Arrivé à ce moment-là, lorsque... on avait le test négatif. Puis c'est toujours la même chose. Comme j'ai dit, l'expérience s'est répétée avec 3 différents médecins. C'est lorsque c'est... Ben, c'est pas Lyme, ben là, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment une infection. Une infection, parce qu'on a eu les deux. Mais ils s'enlèvent les mains.
Yeah.
Ils disent, ben, on peut pas t'aider. Ou ils disent, comme j'ai été voir un neurologue, puis le neurologue dit, ben, je connais pas ça, je vais t'envoyer voir un infectiologue. Je n'ai pas... Non, j'ai déjà vu
en
un infectiologue.
C'est l'aller-retour entre le médecin famille, l'infectologue et le neurologue. C'est comme des tours.
Et des rhumatologues. C'est vraiment kafkaesque.
Mais les tests, donc, les résultats sont négatifs, Gaëlle. Alors, c'est qu'ils ont autre chose que la maladie de Lyme?
C'est ce qu'on pourrait penser et c'est ce que les médecins ont conclu, bien sûr. Sauf que malgré ces résultats, Kevin et Moira continuaient leurs recherches et restaient convaincus que les médecins avaient tort. Alors, ils ont fait comme plusieurs autres Canadiens dans la même situation. Ils ont sorti leurs économies et ils sont allés voir un médecin à Plattsburgh, aux États-Unis, qui leur a fait repasser un test pour la maladie de Lyme qui, lui, était positif. Et c'est là que la bactérie devient controverse, en fait. C'est que certains médecins interprètent différemment les résultats de ces tests, disons de façon plus libérale, une interprétation qui n'est reconnue ni par les autorités médicales américaines, ni par les autorités canadiennes. Et ces mêmes médecins prônent parfois des traitements qui sont eux aussi très controversés, comme par exemple des traitements aux antibiotiques qui peuvent durer près de 2 ans.
2 ans d'antibiotiques là, pour traiter la maladie de Lyme. On donne ce type de traitement-là aujourd'hui.
Oui, et ça comporte évidemment des risques énorme pour la santé, mais c'est pourtant le genre de traitement que propose le docteur Maureen McShane, qui pratique dans l'État de New York et qui se spécialise dans la maladie de Lyme depuis qu'elle l'a elle-même attrapée. Elle le fait parce qu'elle est convaincue que la profession médicale sous-estime la présence de cette maladie et elle croit aussi qu'on néglige l'existence d'une version chronique de la maladie de Lyme qui serait très difficile à soigner.
Les journaux scientifiques ne parlent pas de la maladie de Lyme comme d'une affection chronique et difficile à traiter. Et c'est ça le problème. Aux États-Unis, l'Association des infectiologues a établi des normes de soins pour cette maladie. Et ces normes disent de ne pas traiter la version chronique de l'infection, que c'est en fait une maladie auto-immune, un syndrome post-maladie de Lyme, et que si la maladie est sévère, elle ne doit être traitée que pendant un certain temps. Si les symptômes persistent, les patients ne sont plus soignés. On leur dit qu'ils ont le syndrome post-maladie de Lyme. Alors, vous avez quelqu'un qui a une maladie sévère, qui est traitée pendant un court laps de temps, qui a toujours des symptômes et qui est abandonné avec une infection chronique.
They're left with chronic ongoing infection.
So you go against those recommendations.
Donc, vous allez à l'encontre de ces recommandations et vous traitez la maladie de Lyme avec de longs traitements aux antibiotiques.
Yes, I do.
Oui, je le fais, simplement parce que j'ai eu cette infection et que quand j'ai reçu ce diagnostic, je me suis rendu compte que plusieurs patients que j'avais reçus dans mon cabinet avaient la maladie de Lyme. Je ne pouvais tout simplement pas suivre les protocoles de soins établis parce qu'ils laissent des gens sans diagnostic, sans traitement et misérables. Beaucoup de ces gens perdent leur emploi, voient leur mariage brisé. Leur personnalité change au cours de la maladie et c'est très difficile de rester avec un conjoint qui est toujours trop fatigué pour faire quoi que ce soit et dont la mémoire est défaillante. C'est une maladie difficile et abandonner ces gens est immoral.
It's a tough illness and to abandon these people is just immoral.
Le docteur Maureen McShane. Alors, en terminant, Gaëlle Lucia-Berdeau, puisque la tique à pattes noires est en progression au Québec et ailleurs au Canada, est-ce qu'on doit pouvoir se promener dans les bois cet été sans trop de crainte?
Oui, en fait, les conseils pour éviter d'être piqué sont très simples. S'habiller de vêtements longs et de chaussures fermées quand on va dans les bois, s'enduire de produits anti-moustiques comme du OFF qui contiennent du DEET. Et puis si, après une balade, vous trouvez une tique sur votre corps, sachez que si vous la retirez avant 24 à 36 heures, il y a très peu de risques qu'elle ait eu le temps de vous transmettre la maladie de Lyme. Et pour l'enlever, une bonne paire de pinces à épiler fera l'affaire.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Chantal Srivastava.
Reconnaissez-vous cet oiseau? Il s'agit du martinet ramoneur, un tout petit oiseau noir d'à peine 15 cm d'envergure. Ses ailes sont longues et très pointues. Il ressemble un peu à une hirondelle, mais plane à la manière d'une chauve-souris. Pourquoi l'appelle-t-on ramoneur? Eh bien, c'est parce qu'il aime bâtir son nid dans les cheminées de maçonnerie. Fait à noter, c'est le seul martinet présent à l'est des Rocheuses. Sauf que, depuis quelque temps, rien ne va plus pour lui. Depuis 2007, il figure sur la liste des espèces menacées, un statut peu enviable qui découle en grande partie du manque de cheminées adéquates. Pour freiner l'hécatombe, le regroupement Québec Oiseaux coordonne, pour la deuxième année, un projet de nichoirs artificiels. Il s'agit en fait de faux cheminées qui sont installées en ce moment même sur deux sites, un à Sherbrooke, l'autre à Montréal, sur le toit d'un édifice au Jardin botanique. C'est là que j'ai accompagné le biologiste Jean-Sébastien Guénette, directeur général du regroupement Québec Oiseaux, alors qu'il faisait une tournée d'inspection du nichoir installé il y a quelques semaines à peine.
Donc, c'est une structure de 15 pieds de haut, toute faite en bois. Ça, c'est le module où le martinet peut nicher. C'est à la forme d'une cheminée, là, avec une structure pour tenter de réfléchir la chaleur du soleil. Dans le bas, il y a un module vraiment de chauffage, là, avec un thermostat puis une lampe chauffante. Donc, on tente de garder la chaleur toujours plus haut que 18 degrés Celsius. Parce qu'on a déjà fait des tests, puis bon... Là, on entend les cris du martinet, là. Ça, c'est l'enregistrement qui part à toutes les deux minutes là, pour tenter d'attirer les oiseaux là, dans le nichoir.
Ça vient des petits haut-parleurs qui sont là-bas?
Exactement, oui. Oui.
À toutes les deux minutes, donc?
Oui, du matin jusqu'au soir, là, ça joue.
Et à l'intérieur, le diamètre, c'est de combien?
C'est environ 2 pieds de large par 2 pieds de long. Là, donc,
alors, il y a une petite porte que vous allez ouvrir pour voir si...
Ouvrir.
Vous êtes venu quand la dernière fois?
Ah là, on a tardé un peu. Normalement, on vient toutes les semaines. Là. Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas venu. Donc, je vais regarder à l'intérieur si on a une surprise. Non, il n'y a pas de structure de nid, mais par exemple, je vois quelques fientes d'oiseaux au sol. Ça, il va falloir regarder ça de plus près parce que on peut pas l'identifier selon les fientes, là, mais ça indique quand même qu'il y a un oiseau qui s'est posé là, au sommet, là, puis qui nous a laissé quelques surprises. Donc,
qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur, précisément, Jean-Sébastien?
C'est la structure du nid. Donc, c'est un tout petit nid, quelques centimètres de diamètre, fait avec des petites brindilles. La martinet, c'est un oiseau qui se pose pratiquement jamais. Donc, à ce temps-ci de l'année, on peut le voir effleurer les arbres pour récolter avec ses petites pattes là, des petites brindilles, là, puis il fait un petit nid en forme de coupe. Donc, c'est ça qu'on essaie de voir s'il y a une telle structure là, sur la paroi de la cheminée.
Alors ça fait partie d'un projet expérimental, on peut dire,
oui.
Pour voir comment on peut remplacer les vraies cheminées dont nos maisons sont de moins en moins pourvues.
Oui, c'est ça. C'est que le martinet ramoneur, historiquement, cet oiseau-là nichait dans les troncs d'arbres, des vieux arbres morts. Mais bon, avec les colonisations, ces substrats de nidification-là ont disparu.
On a commencé à couper la forêt, c'est ça?
C'est ça. Ensuite de ça, les martinets, bon, ils ont réussi quand même à s'adapter. Au lieu d'utiliser les arbres morts, ils ont commencé à utiliser les cheminées de maçonnerie. Puis bon, avec les nouvelles normes en vigueur depuis quelques années déjà, bon, les cheminées en maçonnerie sont de moins en moins abondantes. Donc, on essaie de pallier à cette perte d'habitat-là. Parce que bon, le martinet, en plus de la perte de substrat de nidification... c'est un insectivore aérien. Donc, avec l'effondrement des populations d'insectes, c'est une autre cause de son déclin. Puis aussi, même les conditions atmosphériques peuvent être assez terribles pour cette espèce-là. En 2005, il y a eu l'ouragan Wilma, puis on a des données qui montrent qu'il y a une bonne partie de la population qui a disparu parce que pendant qu'elle descendait vers le sud, l'ouragan Wilma a remonté finalement les martinets là, vers le nord, puis il y en a beaucoup d'individus qui ont péri là, dans cet ouragan-là.
On dit qu'il est maintenant, donc il fait partie de ces espèces considérées comme étant menacées. On a une idée de sa répartition, de la population de martinets au Canada, on a des approximations et de l'évolution aussi, tout ça dans le temps et des perspectives.
Oui, bien, le martinet ramoneur niche surtout dans l'est de l'Amérique du Nord. Donc, on le retrouve quand même du Texas jusqu'au Canada. Présentement, on évalue à environ 12 000 le nombre d'oiseaux au Canada, ce qui représente un déclin de 95 % depuis 1968. C'est énorme. Donc, c'est un des oiseaux qui subit présentement le plus gros déclin là, parmi toutes les espèces en Amérique du Nord.
Est-ce qu'on a espoir de corriger la situation ou est-ce qu'avec la disparition progressive des cheminées, le fait qu'on chauffe à l'électricité, qu'on utilise et qu'on condamne de plus en plus les cheminées, est-ce qu'il est voué à plus avoir d'endroit pour nidifier carrément?
C'est sûr que nous, avec des initiatives comme celle-ci, là, donc d'installer des cheminées artificielles, c'est sûr qu'on a toujours de l'espoir. C'est sûr que ça ne sera pas facile de rétablir cette espèce-là.
Est-ce qu'on a eu un taux de succès jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a déjà vu un nid? C'est la deuxième année, la deuxième fois ici même, l'autre fois à Sherbrooke, au Musée des sciences. Est-ce qu'on a déjà vu des nids dans ces cheminées artificielles?
Oui, bien, en fait, le modèle provient du Texas. Puis au Texas, ils ont des taux de succès de 70 % dans ces cheminées-là. Donc, mais là-bas, ils ont une population qui est aussi beaucoup plus élevé que si nous, on est quand même à la limite de son aire de répartition. Au Canada, il y a eu plusieurs tentatives en Ontario, au Manitoba et au Québec, ici, pour construire des cheminées comme ça. On a eu une première visite filmée d'un martinet dans une des cheminées comme celle-ci en Ontario il y a quelques semaines. C'était la première fois au Canada qu'on réussissait à attirer le martinet là, dans un nichoir artificiel.
Filmé, vous dites, on avait mis des caméras à l'intérieur?
Oui, donc on peut trouver ça facilement sur YouTube, je crois. Mais nos deux cheminées, comme vous l'avez mentionné, on en a une aussi au musée, sur le toit du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, puis celle-ci au Jardin botanique. Malheureusement, là, ça fait... Bon, l'année dernière, on n'a pas eu de succès, mais l'année dernière, ils ont été installés aussi assez tard. Cette année, on les a installés tôt. Présentement, la saison de nidification vient de débuter. Donc, on va visiter cette cheminée-là à toutes les semaines pour voir si on a des chances de succès. La saison de nidification se poursuit jusqu'à la fin juillet. Donc, on a encore un peu de temps pour espérer voir des martinets. Mais bon. D'ailleurs, on voit deux martinets là-bas qui, qui répondent à notre enregistrement. Donc, on voit que c'est des oiseaux qui volent assez, assez rapidement. Oh, ils s'approchent. On va voir si. C'est quand même intéressant de voir des martinets qui sont aussi près que ça de notre structure. Donc,
Vous avez vu ça souvent?
En fait, depuis la structure, là, c'est la première fois. Actuellement, j'en vois souvent dans le jardin botanique, mais beaucoup plus près des étangs du jardin de Chine, jardin des Premières Nations. Mais depuis la cheminée, comme ça, c'est personnellement, moi, c'est la première fois que j'en vois d'aussi près.
Ils étaient quand même assez près, là.
Oui, oui. Donc, c'est un autre signe encourageant pour que notre nichoir fonctionne.
Bien, je vous remercie beaucoup pour la petite visite, puis on va continuer à surveiller ce qui se passe à l'intérieur de cette cheminée-là. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Guénette.
Merci à vous.
Une tournée faite donc un peu plus tôt cette semaine sur les toits au Jardin botanique de Montréal en compagnie de Jean-Sébastien Guénette du regroupement Québec Oiseaux, le martinet ramoneur qui est inscrit depuis 2007 sur la liste des espèces menacées. Un statut octroyé à la suite de la publication d'un rapport du COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Marc Dionne est biologiste au Service canadien de la faune à Québec. Il a participé à la rédaction de ce rapport. Je lui ai demandé comment aménager nos cheminées pour aider un peu le martinet ramoneur.
Tout commence par de la sensibilisation, autant pour les personnes qui possèdent des cheminées qui sont potentiellement adéquates pour l'espèce, mais aussi pour les personnes qui possèdent des cheminées qui peuvent être qualifiées de cheminées pièges, c'est-à-dire c'est des cheminées qui dans lesquelles le martinet peut entrer, mais aurait de la misère à sortir à cause qu'il y a un chemisage en métal à l'intérieur. Soit un pare-étincelle ou un grillage peut éviter que des martinets se ramassent dans le fond de la cheminée et qu'ils périssent.
C'est quoi la cheminée idéale pour le martinet?
Ben, c'est des cheminées traditionnelles en maçonnerie, donc qui ont une surface rugueuse à l'intérieur, qui vont être soit en pierre, soit en béton, soit en brique. Et puis, ben, grâce à ça, l'oiseau peut y fixer son nid, contrairement aux autres cheminées plus modernes dans lesquelles il est impossible d'y coller son nid.
Donc, idéalement, pour le protéger, il faudrait lui permettre de faire son nid dans ce type de cheminée-là, mais c'est un casse-tête, ça, pour le commun des mortels, M. Dionne, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Là, il faut la rendre conforme aux normes, notre cheminée. Ici, on le fait, les martinets en sont privés. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, c'est sûr qu'il y a toujours une question de santé puis de sécurité du public qui prime peut-être dans ces situations-là, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'habitat du martinet, qui sont des cheminées de propriétaires, est appelé à disparaître justement à cause des changements de matériaux, changements de construction, changements de normes. Donc, pour l'instant, ce qu'on espère, c'est peut-être diminuer l'impact que ce taux de fermeture de cheminée-là peut avoir en sensibilisant les gens, par exemple, lorsqu'ils vont faire ramoner leur cheminée, ben, ça pourrait être une bonne idée de la faire ramoner en dehors de la période de nidification ou de demander au ramoneur de vérifier s'il y a la présence de nid ou non. Comme ça, on pourrait éviter de détruire des portées d'oiseaux.
La période de nidification qui est à peu près maintenant, là, on commence, là.
Oui, effectivement.
Et qui s'étend jusqu'à?
Qui s'étend à peu près jusqu'à la mi-juillet. Vers la fin juillet, en fait, c'est à ce moment-là que les jeunes éclosent du nid et peu de temps après, ils vont prendre leur envol. Et à partir de ce moment-là, bon, ben.
Sauf que là, je tourne le fer dans la plaie, M. Dionne. Il n'y a pas que les martinets qui peuvent entrer dans les cheminées. Il y a d'autres petites bestioles aussi qu'on désire peut-être moins laisser là ou avoir à proximité.
Oui, effectivement. Il y a d'autres animaux nuisibles, si on veut, qui peuvent rentrer dans les cheminées. Et donc, à ce moment-là, il y aurait peut-être façon de réduire l'ouverture de la cheminée pour permettre à l'oiseau de rentrer et à très peu d'autres espèces de pouvoir y accéder.
Et c'est quoi, techniquement, ça donne quoi comme ouverture réduite pour permettre aux martinets d'entrer, mais protéger la cheminée pour pas que les autres y aillent?
Ben, en fait, on a constaté à un endroit que l'oiseau était capable de rentrer dans un trou d'un diamètre d'environ 10 cm. Tant que c'est seulement l'ouverture qui est cette grandeur-là, il faut que l'oiseau puisse ensuite déployer ses ailes à l'intérieur de la structure.
Vous l'évoquez, les cheminées, à cause de nos modes de vie qui changent et des normes de construction qui évoluent, sont appelées à disparaître à plus ou moins long terme. Est-ce qu'on a des plans B, ces nichoirs artificiels qui sont testés par Québec Oiseaux ou d'autres systèmes pourraient peut-être devenir autre chose que des projets pilotes éventuellement?
Oui, effectivement. On travaille justement avec Regroupement Québec Oiseaux à essayer de trouver des cheminées qui sont aptes aux oiseaux. Puis ensuite, il va sûrement avoir un petit travail d'ingénierie à faire pour essayer de rendre ces modèles-là disponibles pour le commun des citoyens qui désirent s'impliquer dans la conservation de l'espèce. Par contre, il est possible que les cheminées artificielles soient plus une mesure d'appoint pour conserver les populations existantes. Éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait ça que peut-être l'espèce puisse retourner à son habitat original au niveau de la forêt. Puis à ce moment-là, ben là, il faudra regarder au niveau des pratiques sylvicoles qu'est-ce qui peut favoriser la rétention puis la présence de chicots, donc d'arbres creux, pour la nidification de l'espèce.
Et ça, ce sont donc des pistes de recherche qu'on explore actuellement, M. Dion.
Effectivement.
Mais je vous remercie beaucoup, M. Dion, pour toutes ces explications. Merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Et je rappelle que vous êtes biologiste au Service canadien de la faune et que vous avez participé à la préparation de ce rapport du Comité sur la situation des espèces en péril qui traitait il y a quelques années du sort du martinet ramoneur. Merci. Au revoir.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, une nouvelle série d'été pour souligner l'année mondiale de l'astronomie, avec en vedette les stars des étoiles.
On dit que c'est l'année mondiale de l'astronomie, et on fait en général référence aux premières observations télescopiques de Galilée 1609. L'autre socle de la révolution astronomique, c'est Kepler. Et Kepler sans Galilée ou Galilée sans Kepler ne sont rien. Il faut les deux. Car c'est Kepler qui comprendra le premier les lois de l'optique permettant de dire que ce que voit Galilée à travers sa lunette, ce n'est pas une illusion d'optique créée par le tube, c'est la réalité.
C'est maintenant l'heure du facteur et voici la question de la semaine.
Bonjour, mon nom est Serge Gingras d'Elmer. J'ai lu il y a quelque temps une entrevue avec Hubert Reeves où il affirmait que l'univers ne pivotait pas sur un axe. Peut-on expliquer pourquoi l'univers serait immobile alors que tout à l'intérieur bouge et tournoie? Merci à l'avance.
Pour répondre à M. Gingras, Hugues de Roussan s'est adressé à Robert Lamontagne, astrophysicien et directeur exécutif de l'Observatoire du Mont-Mégantic.
C'est très difficile à dire, en fait. Si on prend des exemples simples, on peut dire que la Terre tourne sur elle-même ou que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'on est capable de trouver des points de référence pour définir notre propre mouvement. Alors, la Terre tourne sur elle-même et on voit les étoiles lointaines qui semblent se lever, monter dans le ciel et se coucher à l'horizon ouest. Ou la Terre tourne autour du Soleil et on voit le Soleil qui se déplace par rapport à la voûte étoilée dans le ciel. Alors, pour définir un mouvement, que ce soit un mouvement de translation ou un mouvement de rotation, vous avez besoin de points de référence pour définir votre mouvement. Dans le cas de l'univers, certainement dans ce qu'on appelle l'univers observable, qui est tout ce que l'on peut accéder par nos moyens d'observation, donc une immense bulle contenant des 400 milliards de galaxies, on ne peut pas définir facilement un mouvement de rotation de cet univers parce qu'on ne peut pas comparer avec quelque chose qui serait à l'extérieur de l'univers observable. Quelque chose à l'extérieur de l'univers observable est par définition hors de notre champ d'observation et donc nous n'avons pas de point de référence pour définir l'univers observable. Très récemment, il y a des gens qui se sont intéressés au problème. Ils essaient de relier un possible mouvement de rotation de l'univers observable avec certaines propriétés observées qui sont un peu étranges, comme le fait que l'univers soit en expansion qui accélère. Alors, certains théoriciens invoquent pour expliquer cette accélération, un mouvement de rotation. Mais il y a d'autres explications qui sont aussi proposées. Alors, c'est la rotation de l'univers serait une explication parmi plusieurs qui permettrait d'expliquer, on le croit, la fameuse accélération de l'expansion de l'univers. Donc, on peut aussi, d'un point de vue conceptuel, trouver un peu étrange l'idée de la rotation de l'univers. Par définition, tous les points d'observation dans l'univers sont équivalents. Il n'y a pas de centre à l'univers, le Big Bang s'est produit partout en même temps. Alors, si l'univers tourne sur lui-même, vous lui donnez une direction privilégiée, je reprends mon exemple de la Terre qui tourne sur elle-même. La Terre tourne sur elle-même autour de ce qu'on appelle l'axe de rotation qui définit le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, vous définissez une direction privilégiée lorsque vous parlez de la rotation de la Terre sur elle-même. Ce n'est pas possible. Conceptuellement, ça devient un peu embêtant de parler de ce genre de choses pour l'univers, tout simplement parce qu'on définirait un point privilégié, unique, quelque part dans l'univers, ce qui remet en cause le modèle du Big Bang.
Dites-moi, le fait qu'on ne soit pas capable de, pour le moment, d'avoir une expérience qui prouverait hors de tout doute ou qui prouverait que l'univers tourne sur lui-même, est-ce que ça veut dire que l'univers ne tourne pas effectivement?
Non, ça ne veut pas dire que l'univers ne tourne pas. On ne peut pas tester cette hypothèse de façon simple. Et quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Donc actuellement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur de l'univers observable, qui n'est pas l'univers au complet, les étoiles, les galaxies, enfin tout ce qui est à l'intérieur, ça bouge, mais l'ensemble, on ne peut pas savoir.
On ne peut pas savoir, exactement.
Hugues de Roussan s'entretenait avec Robert Lamontagne de l'Université de Montréal. Et je rappelle que vous pouvez en tout temps nous laisser vos questions de science et de technologie. Vous composez dans la grande région de Montréal le 514-597-6166, 514-597-6166 ou de l'extérieur le numéro sans frais 1-800-752-9050, 1-800-752-9050. Dans quelques secondes, la chronique des années-lumière en rappel pour l'été. Yannick Villedieu présente.
La chronique d'Yves Gingras. Bonjour Yves.
Bonjour.
Vous allez nous présenter aujourd'hui, ben là c'est votre sujet, une sociologie de l'herbe à poux. Auriez-vous la fièvre des foins, Yves?
Non, mais mon garçon, là, énormément. Et oui. Les gens ont tendance à penser que le problème actuel de l'herbe à poux n'est qu'un problème de nature technique. Oui. Alors je vais essayer de vous démontrer qu'au fond c'est un problème plutôt d'organisation sociale.
Sociale, oui. Pourquoi?
Parce que ça m'a rappelé que un groupe qui est très important dans l'histoire des sciences au Québec, ça a été le groupe des cercles des jeunes naturalistes.
Marie-Victorin.
L'ombre de Marie-Victorin Plante, bien sûr. C'est une idée d'abord du frère Adrien, un clerc de Sainte-Croix, si ma mémoire est bonne. Mais Marie-Victorin a vu immédiatement le potentiel de cette idée-là et en a fait un mouvement de masse immense.
Donc, cercle des jeunes naturalistes, c'était quoi? Donc, les CJN, comme on l'a dit.
CJN, des jeunes entre, disons, 7 jusqu'à 12 ou 13 ans qui créent des clubs, des cercles, dans lesquels ils vont se réunir pour connaître les plantes, faire des excursions. Et rapidement, dès le milieu des années 30, mais j'ai en tête surtout une photographie superbe de 1945 où on voit Marcel Gauvreau, donc la secrétaire de Marie-Victorin qui avait créé au milieu des années 30 aussi l'école de l'éveil, qui elle s'occupait des enfants dès l'âge de 4 ou 6 ans, genre de pré-maternelle, pour leur faire découvrir la nature. Donc avec les milliers de jeunes des cercles naturalistes, les gens se sont dit, le problème de la fièvre des foins qui est causée en partie, pas uniquement, mais en bonne partie par la fameuse herbe à poux, il ne suffit, comme on vient d'ailleurs de le dire, il le quelques mois, les instances de la santé, il suffit d'arracher l'herbe à poux partout où on la voit. Et donc, ça me rappelle cette photographie-là où on voit une bande de jeunes de 10 à 12 ans qui se préparent à aller faire une campagne d'éradication de l'herbe à poux à la Chine et qui portent des pancartes au nom très beau qui dit « Travaillons pour le bien de l'humanité ».
Ah, que c'est beau.
La jeunesse de la Chine à l'œuvre. Et là, on voit
En quelle année? 1945, vous avez
dit. Et dès les années 30, il y avait toujours à chaque année, de façon récurrente, cette idée de prendre des milliers de jeunes et de les amener voir des plantes, mais d'arracher...
De faire une corvée.
L'herbe à poux. Au fond, c'est une corvée, comme on en fait aujourd'hui un peu pour nettoyer les berges
du fleuve
ou même le Mont-Royal. Cependant, c'est que ce qui était fréquent dans les années 40 et 50, aujourd'hui, c'est inexistant. La société a changé. Il faut rappeler que les jeunes qui sont dans les écoles des années 40 et 50 jusqu'au fond, milieu des années 1960, sont très encadrés parce que les curés, les associations, les cercles religieux nous encadre suffisamment pour occuper les jeunes. Donc, les cercles des jeunes naturalistes, ça peut dire on part samedi matin à 8 heures et les frères d'école chrétienne, les frères de l'instruction publique ont du temps à consacrer à ça. Aujourd'hui, bien sûr, on est dans une société, un, laïque, deux, aussi très individualiste, et c'est beaucoup plus difficile d'encadrer les jeunes et de lancer des corvées comme celle-là.
Bien sûr.
Ça prend des groupes, ça peut être les clubs 4H, ça peut être les plein de clubs, mais on voit que c'est très difficile, ce qui fait que l'herbe à poux a proliféré. Et plus l'herbe à poux prolifère, plus, bien sûr, les problèmes de santé récurrents à chaque année reviennent.
Donc, vous disiez, Yves, que, effectivement, dans ce modèle social-là, où les jeunes sont très encadrés par les religions,
en bonne partie,
les groupes religieux, il y avait effectivement une organisation sociale très différente qui permettait à ce genre de mouvement-là, notamment donc l'éradication de l'herbe à poux, d'avoir lieu.
Exactement. Alors que de nos jours, ça n'existe pas. Et on voit que c'est un problème qui est très ancien, parce que je me suis dit, qu'est-ce que l'herbe à poux, au fond? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des villes, et qui serait capable, demain, moi le premier, de reconnaître de l'herbe à poux? Donc je dis, retournons
à la flore ancienne
de Marie-Victorin.
J'en suis sûr que vous disiez régulièrement.
Et dont j'ai la première édition 1935. Et on y trouve une très belle description des symptômes. Il nous dit dans la description
de la fièvre
des foins, oui. Et ce qui est bon dans la flore laurentienne, c'est qu'on trouve les noms vulgaires des plantes. Donc herbe à poux, c'est le nom vulgaire de l'ambroise trifide, ou comme on dit en latin, Ambrosia trifida, qui est une tige environ entre 1 et 6 mètres, donc c'est assez gros. Et ça, c'est la grande herbe à poux. Et il existe aussi la petite herbe à poux qui lui ressemble, mais qui est beaucoup plus petite, entre 30 cm et 200 cm. Donc, entre 1 et 2 mètres, alors que l'autre va jusqu'à 6 mètres. Et là, dans les caractéristiques de cette plante, Marie-Victorin écrit, la fièvre des foins est un état d'hypersensibilité dû à des réactions individuelles extrêmement spécifiques aux protéines des pollens flottant dans l'air et aspirées par le nez. Les symptômes, congestion des muqueuses nasales, abondance de mucosité, démangeaison aux yeux, éternuement violent, sont très pénibles et leur effet angoissant est aggravé par la probabilité de récurrence annuelle. Donc, on voit la description un peu des symptômes et un peu des comportements dans un livre qu'on pense être au fond un livre plate, un livre de plantes. Au contraire, il est bourré d'annotations ethnographiques sur les caractéristiques. Et lui-même dit que pour régler ces problèmes-là, il faut au fond, de façon récurrente à chaque année, arracher
la
plantes de façon, donc organiser de façon récurrente des rotations pour arracher l'herbe à poux.
Ce qu'ont fait les cercles des jeunes naturalistes pendant de très nombreuses années, bien sûr. Alors, conclusion de ça, Yves, quand on regarde cette évolution, au fond, des années 30, 40, même 50, probablement, où on pouvait faire ce genre de campagne-là d'éradication de l'herbe à poux, et aujourd'hui où on dit simplement, ben, l'herbe à poux, ça prolifère dans une ville comme Montréal, une agglomération comme Montréal, puis ça coûte, je sais pas combien, 1 000 000 par année en soins de santé.
Alors que la solution serait de retrouver des formes d'organisation collective, de redécouvrir des choses aussi simples que les plantes qui nous entourent autour des maisons et autour des dépotoirs à déchets, parce que Marie-Victorin mentionnait que ça court autour des maisons et des dépotoirs. Donc, une meilleure connaissance de choses banales qui coûtent rien, et à l'école, on pourra leur montrer c'est quoi les plantes, surtout qui nous entourent, et organiser collectivement. Si on n'organise pas collectivement de façon regroupée dans des villes une à une, on va laisser à l'organisation maintenant contrôlante, qui est payante, par exemple. Si on dit c'est la ville de Montréal qui doit le faire, ça veut dire qu'il faut qu'on paye des gens à plein temps pour courir. Alors que ce serait des belles fins de semaine d'organiser au début du mois d'août dans toutes les villes, dans toutes les régions, pour dire en fin de semaine, on arrache de l'herbe à poux.
Je savais que vous vouliez, que vous admiriez le frère Marie-Victorin. Je ne savais pas que vous vouliez le réhabiliter, le ramener parmi nous pour refaire des cercles des jeunes naturalistes, des corvées d'herbe à poux, Yves Gingras. Bravo.
Ça fait plaisir.
C'est donc ainsi que se termine cette première heure des Années-Lumière. J'en profite pour vous dire que ce soir, l'émission Découverte s'interroge sur la science au service de la longévité. Donc, rendez-vous ce soir à 18h30 à la télé de la SRC. D'ici là, restez des nôtres. La suite des Années-Lumière après le bulletin de nouvelles. À tout de suite.
Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue. Ici Chantal Srivastava pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, l'énergie éolienne au cœur de l'incontournable révolution énergétique avec Bernard Saunier, spécialiste de l'intégration de la filière éolienne dans les réseaux électriques, qui vient de co-signer un livre sur cette question. L'éolien qui, imaginé seulement au Québec, représente 100 fois la production totale d'électricité annuelle, mais qui demeure pour le moment sous-exploité. Puis nous verrons comment l'art visuel peut aider à soigner les troubles psychiatriques, un domaine fascinant. Et il y aura aussi, bien sûr, comme à l'habitude, le petit journal de la semaine. Mais pour commencer, la nouvelle série d'été des années-lumière. Les stars des étoiles. De Nicolas Copernic à Edwin Hubble, en passant par Kepler et Chandra, pour souligner le 400e anniversaire de l'utilisation de la lunette astronomique par Galilée et marquer à notre manière l'année mondiale de l'astronomie, nous vous proposons cet été une galerie de portraits mettant en vedette de grands astronomes qui ont marqué les sciences de l'univers. Pour commencer, nous plongeons au cœur de la période qui a changé le monde il y a 400 ans. En 1609, en Italie, Galilée fait des observations étonnantes à travers sa lunette. Au même moment, à Prague, Johannes Kepler contribue lui aussi à faire avancer les connaissances sur l'univers. Ainsi se poursuit une révolution scientifique, sociale et religieuse qui avait commencé avec Nicolas Copernic, celui qui avait osé dire que le Soleil, et non la Terre, se trouvait au centre de l'univers. Pour raconter cette époque et la contribution plus précise de Johannes Kepler, Sophie André Blondin a rencontré Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au CNRS. Il est également astrophysicien et romancier. Le troisième tome de sa série « Les bâtisseurs du ciel », publié chez Jean-Claude Lattès, s'intitule « L'œil de Galilée ». Il est consacré à Kepler. Voici donc l'histoire de ce grand astronome et de son époque, telle que Jean-Pierre Luminet l'a racontée à Sophie-André Blondin à Paris, lors des cérémonies marquant le lancement de l'année mondiale de l'astronomie. Et pour rester dans le ton et dans l'époque, la musique que vous entendrez est celle du père de Galilée, Vincenzo Galilei.
La conception antique, c'était que l'univers, c'est une sorte de décor planté par Dieu pour l'homme. Donc tout était visible dans ce décor. Donc le fait de voir qu'en pointant un instrument, on voit des choses cachées, c'était un choc philosophique et métaphysique énorme. Vous imaginez ? On croyait que finalement toutes les étoiles avaient été installées dans le ciel pour décorer le ciel par Dieu, avec, je sais pas, 2000 étoiles visibles. On pointe une lunette, au lieu d'en avoir 2000, on en voit 50 000. Alors à quoi sert toute cette chose cachée ? C'est donc l'homme, effectivement, pour la première fois, il devient le vrai spectateur du cosmos, plus le spectateur passif, mais le spectateur actif. C'est le début de la physique, le début de la science moderne. Renverser complètement la vision grecque de l'univers, ça commence avec Copernic, mais qui ose juste changer la place de la Terre et du Soleil et les inverser, c'est déjà pas mal, hein. On appelle ça le grand déménagement, mais il touche pas au reste, il touche pas par exemple aux orbites circulaires, à l'espace fini, les étoiles toutes à la même distance, avec rien au-delà ou le paradis, ce genre de choses, il touche pas. Donc progressivement la révolution va se faire en plusieurs étapes, et il faut les contributions successives de Tycho, puis surtout de Kepler, de Galilée, et le couronnement de tout cela, ce sont les principes mathématiques de la philosophie naturelle, 1687, Isaac Newton, qui va s'appuyer sur les épaules de géants, Kepler, Galilée, pour révolutionner complètement la science et la physique.
On va parler de ce roman-ci avec Kepler, et vous prenez la voix d'un diplomate anglais qui vient, on va dire, espionner pour aller prendre ce qu'il y a de mieux comme connaissance et comme technologie pour le mettre au profit de compagnies marchandes, chercher donc les meilleurs astronomes. Il se trouve à Prague et c'est là que commence cette histoire où on va rencontrer Kepler et à travers Kepler, Galilée.
Oui, donc dans le personnage diplomate anglais auquel vous faites allusion, c'est en fait qui est le narrateur du livre, c'est le seul personnage fictif. Mais il est réaliste en ce sens qu'il y avait effectivement des diplomates anglais, dont on connaît les noms, qui faisaient office effectivement d'un peu espion et autre chose, et surtout nous voulaient se tenir au courant des avancées astronomiques sur le continent pour les besoins de la navigation. Voilà, bien entendu. Voilà. Alors à part cela, donc le roman commence à la mort de Tycho Brahe, qui avait fait l'objet du roman précédent, La Discorde Céleste, ce personnage extravagant, extraordinaire, qui était l'astrologue et mathématicien de l'empereur Rodolphe à Prague. Et à sa mort, donc, Kepler, qui avait été son assistant pendant les 18 derniers mois, prend sa succession comme astronome impérial et surtout récupère le trésor de Tycho Brahe, c'est-à-dire les 35 années d'observation accumulées par l'extraordinaire observateur qui était Tycho Brahe pour fonder l'astronomie nouvelle. Et donc Kepler va travailler d'arrache-pied sur ces données observationnelles, sur les trajets des planètes, pour découvrir quelque chose fondamental, qui est la nature elliptique des trajectoires planétaires, et non plus les cercles comme on le croyait depuis si longtemps. C'est une véritable révolution, une révolution théorique, parce que Kepler cherche des causes physiques et non plus des causes mystiques ou autres, même s'il avait un fort penchant quand même pour le mysticisme, et il cherche même une sorte de loi de gravité. Et il anticipe même la loi de gravité de Newton en pensant que c'est le Soleil qui émet une sorte de force qu'il estime être une force magnétique parce qu'il ne connaît pas autre chose. Mais
un peu comme la lumière.
Oui, voilà, un peu comme la lumière, un flux qui retient les planètes et qui expliquerait les trajectoires elliptiques. Alors, Kepler, ça je tiens à le dire, a publié donc ce livre fondamental qui s'appelle Astronomia Nova, Astronomie Nouvelle, en 1609. Si aujourd'hui, en 2009, on dit que c'est l'année mondiale de l'astronomie, et on fait en général référence aux premières observations télescopiques de Galilée, 1609, l'autre socle de la révolution astronomique, c'est Kepler. Et Kepler sans Galilée, ou Galilée sans Kepler, ne sont rien. Il faut les deux. Et ce roman, L'œil de Galilée, met en scène les deux personnages. En fait, L'œil de Galilée, c'est Kepler. Car c'est Kepler qui comprendra le premier les lois de l'optique, permettant de dire que ce que voit Galilée à travers sa lunette, ce n'est pas une illusion d'optique créée par le tube, c'est la réalité. Et donc le monde va être vraiment changé. Et puis, ces deux personnages, ces deux géants de l'histoire des sciences, ce sont deux caractères totalement opposés. D'abord, ils se sont jamais rencontrés. Leur seule relation, c'est une correspondance épistolaire assez étrange d'ailleurs, où Galilée, un peu pervers, envoie ses découvertes sous forme d'anagrammes codés à Kepler, qui s'évertue à essayer de les déchiffrer en se trompant parfois, etc. L'un vit dans les pays catholiques, Galilée, il n'ose pas dire qu'il est copernicien et ceci à cause de l'Inquisition. Kepler, lui, peut effectivement être copernicien parce qu'il n'y a pas ce même type de censure, mais en revanche, il est luthérien en pays catholique. Et donc lui, il est persécuté par les jésuites, les religieux. Donc les deux, finalement, sont persécutés, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Et alors, ils ont des façons de voir le monde complètement différentes. On sait que Galilée, c'est un peu le prototype du scientifique moderne, très rationnel, méthodique, il fait ses expériences, etc., etc. Lui, Kepler, c'est un mélange d'un esprit prodigieusement imaginatif, fortement imprégné un peu de mysticisme à l'antique. Il a une admiration folle pour les philosophes, pendant les grands penseurs de l'Antiquité, mais il a aussi un esprit extraordinairement moderne, parce qu'il veut chercher des causes physiques à toute chose. Et donc, son imagination débordante lui fera découvrir un grand nombre de choses, bien au-delà de ce que l'on sait de lui, généralement, en astronomie. Il a exploré plein de domaines, dans des mathématiques, la cristallographie, etc. Donc, un personnage absolument fascinant. Voilà. Et leurs deux façons de faire la science sont un peu le reflet moderne, parce qu'il y a une actualité aussi, quelque chose,
quelque part. Oui.
C'est quelque part, Galilée, c'est le symbole du physicien expérimentateur, et Kepler, c'est le symbole du physicien théoricien. Ils sont tous les deux dans leur réalité à eux, leur pratique, leur façon de penser le monde. Et loin de s'opposer, apparemment ça s'oppose, mais c'est quand on les met ensemble, c'est ça qui fait faire un progrès décisif.
Et vous avez une très belle façon, en une phrase, de résumer leur essence, en comparant Kepler au vin et Galilée à l'huile. C'est-à-dire Kepler au vin parce qu'il extrait l'essence et Galilée à l'huile parce qu'il presse les instruments et les choses jusqu'à en obtenir sa science.
Oui, ben ça c'est effectivement la tâche du romancier qu'après de trouver des images, des métaphores beaucoup plus littéraires pour essayer effectivement de cerner la façon quand même complexe dont ces grands génies ont construit une nouvelle vision du monde. Et mettant en scène donc effectivement pour les faire vivre pleinement dans leur temps leurs amitiés, leurs amours, leurs haines, leurs inimitiés et toutes les relations qu'ils ont eues également, hein, tous les ennuis, les soucis politiques, tous les conflits qu'il a pu avoir. Il n'y a pas que des conflits scientifiques, il y a les innombrables conflits religieux, évidemment, qui sont bien connus pour Galilée, moins connus pour Kepler. Et tout ça, ça fait effectivement des personnages qui ont eu des vies d'une richesse absolument, absolument incroyable.
Le mathématicus, on appelle ça le mathématicus, très près du pouvoir, choisi, payé, dorloté, chouchouté par le pouvoir. Est-ce que les scientifiques ont perdu du galon de ce côté-là maintenant?
Non, il est sûr que l'organisation sociale de la science a énormément changé. En fait, l'organisation sociale de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a commencé à naître seulement au siècle des Lumières, hein, donc quand même à peu près 2 siècles plus tard. Que je raconte d'ailleurs dans mon tout premier roman, qui s'appelait le Rendez-vous de Vénus, qui se passait au siècle de Lumière, où on voyait comment la science de l'époque, à travers les académies, commence à s'organiser, commence à prendre la place qu'elle a à peu près aujourd'hui dans la société. Donc à l'époque de Kepler, Galilée, etc., c'était très différent. C'est un petit peu aussi comme le statut des artistes, hein, c'est-à-dire il y avait voilà les artistes attachés à des rois, à des princes, aux papes, enfin aux puissants de ce monde. Là aussi, il y avait les mathématiciens, les astronomes, étaient également attachés aux puissants du royaume, chargés d'ailleurs essentiellement plutôt que de faire des mathématiques, de faire de l'astrologie, il s'agissait de faire des horoscopes. Hein. Donc ça, c'était l'une des tâches de Kepler, que Kepler détestait, parce qu'il trouvait que l'astrologie, c'était une absurdité. Il disait que c'était des singeries, mais il avait besoin pour vivre. Il n'arrivait jamais à recevoir son vrai salaire de mathématicien, mais au moins, il faisait des horoscopes pour des nobles familles qui le lui demandaient. Il se faisait grassement payer, en s'amusant bien d'ailleurs leur dos, parce qu'il faisait simplement des portraits psychologiques. Comme c'était une fine mouche, c'était très pertinent ce qu'il écrivait. Donc une bonne partie des prédictions, qui étaient en fait des traits de caractère généraux, finissaient tôt ou tard par se réaliser. Et donc il était très réputé comme astrologue, alors qu'il méprisait totalement cette pratique-là.
Pour pouvoir hériter de tous les travaux de son maître Tycho Brahe, de qui il a été l'assistant, vous avez, je ne sais pas si c'est imaginé ou documenté, une façon qu'il a eu de, entre guillemets, voler la documentation, voler les données et pouvoir les utiliser.
Je voulais dire, c'est une réalité historique. Hein. Voler, effectivement, le terme est un petit peu fort parce que...
Emprunter.
Je raccourcis en un seul mot une assez longue histoire. Simplement, il faut savoir que Tycho Brahe, qui était un personnage absolument hallucinant également, faisait une rétention d'informations. C'est-à-dire, il l'accumulait comme une sorte de dragon assis sur son tas d'or, ou comme un ivrogne qui boit, parce que Tycho Brahe était aussi un petit peu comme ça. Il accumulait les choses sans les restituer. Voilà. Et notamment, il avait cet énorme corpus d'observations astronomiques qu'il avait rassemblé depuis 35 ans. C'était les meilleurs de l'époque parce qu'il avait construit les meilleurs instruments de l'époque. C'était avant la lunette de Galilée. Hein. Donc toutes ces observations de Tycho Brahe étaient faites à l'œil, mais par des instruments géants qu'il avait installés dans un fabuleux palais extraordinaire, etc. Et donc, il y avait donc des milliers de pages d'observations astronomiques sur les positions des planètes au cours du temps, etc. Et Tycho Brahe rêvait d'une chose. Parce que Tycho Brahe est un génial observateur du ciel, mais c'était un piètre mathématicien. Or, pour pouvoir mettre en ordre ces observations, et surtout pour en tirer un modèle sous-jacent, c'est-à-dire, par exemple, quelle est la loi qui régit le mouvement des planètes, etc., Tycho Brahe avait une idée comme ça, qu'il avait plus ou moins empruntée à d'autres, d'ailleurs, une vague idée d'un système cosmologique un peu intermédiaire entre le vieux système de Ptolémée, dont on sentait bien qu'il fallait l'abandonner parce qu'il marchait plus, le système de Copernic, le soleil au centre, il en voulait pas encore, c'était pour lui d'un peu trop révolutionnaire, donc il a cherché un compromis, un système bâtard, et il rêvait d'une chose, c'est que un esprit puissant, mathématicien, mette en forme ses observations pour prouver son système du monde à lui. C'est pour ça qu'il appelle Kepler à Prague, pour le faire travailler sur l'orbite de Mars, en disant à Kepler, tu dois montrer que mon système du monde, c'est le bon. Mais Kepler, lui, il sait très bien, Kepler, c'est un renard. Lui, il est copernicien, il sait très bien que le système de Tycho Brahe, ça vaut rien du tout. Mais donc, il va jouer le jeu et pour effectivement s'emparer des observations de Tycho Brahe. Mais comme Tycho Brahe, il n'est pas bête non plus, il voit bien que Kepler ne va pas se laisser faire, il fait de la rétention d'informations. Donc, il ne lui donne que goutte à goutte Là. Et comme il meurt assez brutalement, en fait, l'énorme corpus de ses observations n'était pas en possession de Kepler. Et normalement, ces observations auraient dû aller aux descendants, parce que Tycho Brahe avait des fils qu'il voulait qu'ils deviennent astronomes à leur tour, et pour lui, c'était sa lignée qui allait continuer. Mais ses fils étaient des incapables, et Kepler a bien compris que si les observations tombaient entre les mains des fils de Tycho Brahe, c'était fini. Donc, il se les est appropriés. Et franchement, il a bien fait au regard de l'histoire des sciences. Après l'événement 1609, Kepler a quand même encore vécu à peu près 25 ans et a continué à produire des œuvres d'une originalité absolument prodigieuse. Mais simplement, il aura après une fin extraordinairement sombre pour des raisons effectivement de bouleversement géopolitique. Lorsque son protecteur, l'empereur Rodolphe, va devoir abdiquer, puis après va mourir de mélancolie ou va probablement se suicider, ses successeurs maintiendront Kepler dans la misère. Pourtant, Kepler, c'est le grand astronome de l'Europe. C'est le cas. Ça reste le mathématicien impérial. Mais il va suivre tous les bouleversements politiques de son temps. Et Kepler va finir misérablement lors d'un voyage pour aller récolter une partie de son salaire qu'il ne lui a pas versé depuis plusieurs années pour faire vivre sa nombreuse famille. Il part à pied par les routes en plein hiver, il attrape une pneumonie et il meurt à l'âge de 50 et quelques années. Une perte extraordinaire, évidemment, pour l'histoire des sciences.
Merci Jean-Pierre Lemunet de cet entretien.
Au plaisir.
Jean-Pierre Luminet, auteur du livre « L'œil de Galilée » aux éditions Jean-Claude Lattès, racontait la vie et l'œuvre de Johannes Kepler au micro de Sophie-André Blondin. Dans notre prochain épisode, la vie et l'œuvre de Subramanian Chandrasekhar, une autre star des étoiles. Prix Nobel de physique, un astéroïde et même un télescope porte son nom. Et vous saurez bientôt pourquoi.
Vous croyez que la nuit porte conseil? Pas si sûr. Deux études viennent contredire la théorie de la pensée inconsciente, élaborée en 2006 par un chercheur hollandais. À l'époque, des volontaires à qui on avait présenté différents modèles de voitures semblaient faire de meilleurs choix s'ils avaient été distraits juste après avoir vu ces modèles, plutôt que si on leur avait laissé du temps pour réfléchir à ces options. Les chercheurs concluaient qu'inconsciemment, les sujets distraits choisissaient mieux. Mais une étude menée aux États-Unis vient contredire ces résultats. Les psychologues croient plutôt que les sujets ont déjà fait leur choix de façon instinctive pendant que les modèles de voitures défilent et que la distraction leur évite ensuite de revenir sur ce premier réflexe. Pour tester leur hypothèse, ils ont demandé aux volontaires de mémoriser les attributs des véhicules au fur et à mesure qu'ils leur étaient présentés, ce qui les a en quelque sorte distraits pendant la présentation. Résultat, ceux qui ont ensuite eu du temps pour réfléchir ont mieux réussi. Les mêmes résultats ont été constatés dans une étude similaire en Belgique.
Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus rapide. C'est le colibri qui, toute proportion gardée, peut voler plus vite qu'un avion de chasse ou même que la navette spatiale. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont réussi à calculer la vitesse d'un colibri quand il effectue un piqué au cours de sa parade nuptiale. Il a été chronométré à 90 km à l'heure. C'est comme s'il parcourait en une seule seconde une distance égale à 383 fois la longueur de son corps, faisant de lui l'animal le plus rapide du monde. À côté de lui, l'avion de chasse fait figure d'escargot, puisqu'il ne vole en une seconde que 207 fois la longueur de son fuselage. Le colibri parvient à atteindre sa vitesse de pointe en plongeant dans le vide et en repliant ses ailes le long de son corps, se transformant du même coup en une véritable fusée. D'autres oiseaux réussissent à atteindre de grandes vitesses pendant qu'ils piquent vers le sol, mais aucun d'eux ne s'approche du colibri. Pas même le faucon pèlerin qui fonce vers sa proie à la vitesse équivalente à 200 fois seulement la longueur de son corps en une seconde.
Les humains sont restés cloués au sol avec un autre report de la mission en destination de la Station spatiale internationale cette semaine. Mais les sondes, elles, ont pris le chemin de l'espace. Jeudi, depuis Cap Canaveral, une fusée Atlas V a lancé deux sondes à destination de la Lune. Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, doit atteindre son but mardi. Puis pendant au moins un an, elle cartographiera notre satellite à partir d'une orbite basse, à 50 km d'altitude. Entre autres objectifs, LRO doit chercher de l'eau sous forme de glace. L'autre sonde, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, n'atteindra la Lune que le 9 octobre, si tout va bien. Avant de s'écraser sur la surface, elle pourra observer l'impact de sa fusée qui, détachée, aura percuté le sol lunaire avant elle. Les Américains rejoignent autour de la Lune les Européens, les Chinois, les Japonais et les Indiens qui ont tous déjà des sondes en orbite.
Durant tout l'été, nous vous proposons en rappel nos meilleurs moments diffusés tout au long de l'année. Aujourd'hui, place à la peinture sous ordonnance en compagnie de notre animateur en vacances, Yannick Villedieu.
Ce n'est pas dans un laboratoire rempli d'éprouvettes et d'ordinateurs que je vous emmène maintenant, mais dans un vernissage. Le vernissage d'une exposition qui sera présentée à Montréal dans les locaux des Impatients jusqu'au 23 novembre. Les Impatients, c'est un organisme qui offre des ateliers d'art à des personnes souffrant de maladies mentales. Et l'exposition « Regard sur l'art cru » est un hommage à Henri Barras, un historien de l'art qui fut directeur du Musée d'art contemporain de Montréal et directeur artistique de la Place des Arts et qui a disparu il y a un an, peu après la publication de son livre « De l'art cuit à l'art cru ».
Je m'appelle René Barnard. Ça fait 15 ans que je fais de l'art thérapeutique, les Impatients. Puis j'ai une toile installée ici qui date de 1993. Mon autoportrait à l'unité 508. Où là, là-bas, que j'ai fait une grosse psychose, que j'ai beaucoup, beaucoup souffert. J'étais en dehors de la réalité complètement. Là, j'étais plus capable. Le monde ne savait plus quoi faire avec moi. Là, les psychiatres, ils me fermaient à pas retourner.
Et quand vous revoyez ce tableau-là, cet autoportrait-là, effectivement, d'une femme très angoissée avec des yeux très, très noirs.
Oui, à cette époque-là où j'étais très angoissée, j'étais psychosée au bout, là. Et réellement, le démon me possédait, là. Ça n'avait pas de sens, là. C'était épouvantable, là.
Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette œuvre-là après tant d'années?
Ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui, je fais des visages qui ne sont pas angoissants comme ça. Le tour des yeux n'est pas noir comme ça.
Lorraine Palardy, directrice générale des Impatients.
Alors, Lorraine Palardy, on est ici dans une exposition tout à fait particulière. Il y a des œuvres d'impatients, donc de gens qui ont des problèmes de santé mentale, et des œuvres d'artistes établis, professionnels. On n'arrive pas toujours à voir lesquelles sont lesquelles.
C'est le but, effectivement, c'est de créer une saine confusion. Je dirais une confusion dans l'espace, dans l'espoir que les gens soient d'abord attirés par le regard, et après ça, en disant, mais qui est cet artiste? Est-ce un artiste? Est-ce un impatient? Et de provoquer, bon, des sentiments qui vont jusqu'à l'admiration, jusqu'au questionnement.
Vous dirigez l'impatient depuis de nombreuses années. Les impatients, donc, on parle d'art thérapeutique. Qu'est-ce que ça fait, l'art ou l'expression artistique à ces gens-là? Ça fait longtemps que vous les voyez, hein?
Oui, ça fait longtemps que je les vois, mais je pense que la plus belle réponse, c'est d'abord, c'est eux qui devraient vous la donner, mais moi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est d'avoir le sentiment de fierté, c'est d'être tout à coup dans leur vie, fiers de quelque chose, fiers d'appartenir à un groupe aussi. Les impatients, c'est une famille. Le plus beau compliment un jour qu'un impatient m'a fait, c'est quand il m'a dit, vous savez, moi, je m'appelle maintenant un impatient. Donc, ce nom-là, qui a été inventé par Fantaisie, est devenu quelque chose qui signifiait quelque chose pour eux.
Alors, je suis art-thérapeute ici depuis 16 ans. Mon nom, c'est Joanne Proulx. Ici, la formule s'adresse à l'art en premier, à ce que la personne peut exprimer à travers l'art. Alors, c'est ça qu'on supporte en premier. Ça perçoit vraiment des changements tout de même. On a des gens qui sont ici depuis 15 ans, 14 ans. Vous allez me dire, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Mais au contraire, ça veut dire qu'ils ont cheminé, qu'ils se sont fait aussi un lieu social.
Je m'appelle Bernard Lévy.
et je suis le rédacteur en chef de la revue Vie des Arts. Ici, le grand défi, c'est de faire cohabiter des œuvres d'artistes qui ont des problèmes de santé mentale avec des artistes reconnus, des artistes qui ont le statut officiel d'artiste. Eh bien, la grande surprise, c'est que je vous mets au défi de dire quelles sont les œuvres des artistes que l'on considère comme ayant des problèmes de santé mentale et puis les artistes tout court. Ne serait-ce que pour ça, déjà, l'exposition vaut le déplacement.
Il y a quelque chose, effectivement, d'assez troublant là-dedans, dans ce fait que la frontière qu'on imaginait est beaucoup plus floue, en tout cas, qu'on pouvait le croire.
Absolument. Et je dirais qu'il y a certainement un grain de folie chez les artistes, mais sûrement un gros grain de génie chez ceux qui ne le sont pas.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, d'une façon générale, en regardant autour de nous, que peut-être dans les œuvres des impatients, il y a une souffrance beaucoup plus directe, beaucoup plus coup de poing que dans les œuvres des autres artistes?
C'est une observation remarquable. Oui, un certain nombre d'impatients montrent de façon beaucoup plus directe la souffrance, montrent de façon plus directe ce que nous appelons la part obscure que nous avons en chacun nous et que nous avons de la peine, pour des raisons sociales, à exprimer de façon brutale, de façon crue, comme dirait Henri Barrasse, qui est un des historiens de l'art qui, parmi les premiers, a mis en évidence cette qualité de l'art cru, de l'art des impatients. Puis, tout de même, je m'en voudrais de ne pas dire que, parmi les impatients, il y en a au moins un qui relève du chef-d'œuvre. Il s'agit du cri qui n'a rien à envier, par exemple, au cri très célèbre d'Edvard Munch, où là, vous avez cette espèce d'immense souffrance, ce cri qui ne s'éteindra jamais et qui donc est la marque du chef-d'œuvre, qui va pouvoir rester éternellement là.
Je m'appelle Marc Garneau, je suis artiste peintre.
Et vous participez, Marc Garneau, à cette exposition des impatients. On voit ici une de vos œuvres avec d'autres œuvres, mariées à d'autres œuvres des impatients. Qu'est-ce que ça fait, artiste, de se retrouver dans cet environnement, disons, peut-être un peu inhabituel?
Moi, je me sens absolument pas mal à l'aise parce que j'ai toujours eu un plaisir énorme à regarder tous les types de dessins, parce qu'on parle ici la plupart du temps de gravures et de dessins, d'art graphique. Et puis, pour différentes raisons, même à titre d'artiste professionnel, j'ai fait une partie de ma thèse de maîtrise sur l'art brut.
Qu'est-ce que ça vous dit, justement, l'art brut? Est-ce que c'est quelque chose de très différent? Est-ce qu'il y a des points communs entre l'art, je dirais, établi ou professionnel ou officiel et l'art brut?
Pour moi, ce qui lie vraiment ces deux types d'art, c'est la nécessité, l'extrême nécessité de produire et de réaliser les œuvres. Le fait de réaliser une gravure ou un dessin, pour un artiste d'art brut ou un artiste professionnel, ça demande au départ une espèce de, pour employer le terme anglophone, « guts », l'idée de le faire et de ne pas simplement le penser, ce qui est une énorme différence. Ils ne pensent pas le faire, ils le font.
Moi, je suis psychien, donc j'ai 72 ans, mais ça fait 40 ans que je m'intéresse à l'expression spontanée, mais de toutes sortes.
Pierre Mignot, vous, c'est le côté, c'est les œuvres des patients qu'on voit ici. Qu'est-ce que vous voyez dans ces œuvres-là, vous, comme psychiatre, et qu'il n'y a pas dans les œuvres des artistes, ou qui seraient différents des œuvres des artistes établis?
Je regarde quatre œuvres, les deux du même auteur. Il y a des thèmes sexuels, mais je dirais une espèce de violence sexuelle, qui est animale. Il y a des formes autant humaines qu'animales. Mais on sent que l'individu qui a fait cette œuvre, regardez, dans l'encadrement, il y a un cadre, il y a une ligne de base. Tout est sous contrôle, au niveau autant de la thématique que de l'expression.
Et de la construction, etc.
Et de la construction. Regardez, ça, c'est très bien construit. Il y a un bas, il y a une gauche, une droite, un haut. Le rosa vit, puis séparer le mot, insupportable. Un porte-manteau, une jupe, un caleçon et autres, une cuisine. Il y a même une espèce d'ironie, insupportable, c'est-à-dire est-ce que le pauvre support est capable de tenir tout ça, ainsi que la robe et autres. Mais on ne sent pas rien de tragique. On sent que quelqu'un, c'est une dame, je l'ai vu.
C'est une impatiente.
Ah, je ne sais pas. Pour moi, impatiente, est-ce qu'elle a été psychiatrisée ou autre? Pour moi, ça ne m'importe absolument pas. parce que moi-même, j'étais très près d'être psychiatrisé et je suis psychiatre. Alors, pour moi, c'est pas d'aller dans une déstabilisation qui est importante ou non, au point même d'être hospitalisé, c'est d'en sortir qui est important. Cette personne-là, elle est en sortie, elle circule ici, elle est même venue voir son œuvre. Et ici, on retourne au niveau de la production. C'est une œuvre qui dégage un certain humour, une certaine pensée, une certaine réflexion, mais qui ne me déstabilise pas, auquel je reste extérieur, je reste distancié. L'œuvre, à mon avis, est de beaucoup la plus forte. C'est celle du bas.
Celle du bas, oui, une œuvre. Donc là, il y a de la couleur, un fond rouge.
Il y a un gros personnage avec d'autres, avec un enfant, il y a des enfants autour. Et il y a vraiment... Regardez même la position oblique. Le personnage est en oblique, t'es plus en vertical. Ce tableau du bas me parle, me touche. Ça, c'est ce que j'appelle quand une œuvre arrive à te mettre en apnée. C'est en arriver à être capable, et c'est pourquoi cette exposition-là est faite, à être capable d'arriver à ce que tu puisses réagir devant une œuvre sans connaître ni l'auteur. A-t-il été psychiatrisé? Prend-il des pilules? Comment ça va? Et simplement établir qu'elle te déstabilise, déstructure, qu'elle va te chercher quelque chose en toi. L'exposition actuelle vise à cela.
Alors, je suis Hélène Corin, je fais de la recherche à l'Institut de santé mentale Douglas et je suis professeure en anthropologie à McGill aussi, en anthropologie et psychiatrie. Donc moi, je travaille vraiment dans l'interface entre la culture et la santé mentale, et particulièrement la psychose.
Et vous êtes co-organisatrice un peu de cette exposition-là. Alors, ça nous dit quoi, ces mariages? Parce que dans chaque endroit, il y a des mariages entre les œuvres des deux côtés, au fond. Oui. Ça nous dit quoi?
En fait, je dirais qu'il y a un principe de base ou un objectif de base qui est de produire du trouble. Alors ça, c'était l'objectif fondamental. Maintenant, ce trouble produit, se situe à deux niveaux différents. Le niveau du trouble qui est intéressé beaucoup Henri Barrasse, c'est le trouble produit par rapport aux catégories, qu'est-ce qui est artiste, qu'est-ce qui est patient psychiatrique, et à travers, en retournant au processus même de la création, justement de faire sauter les catégories, d'une part, et d'autre part, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est à travers ça, je dirais, montrer en quoi, ou faire sentir en quoi, des personnes qui vivent des expériences limites, que ce soit comme psychotique ou que ce soit comme artiste, en quoi ces expériences limites parlent de l'humain et nous touchent et nous déstabilisent en tant qu'humain.
Ça nous envoie comme message, effectivement, cette idée que l'art, l'expression artistique, c'est quelque chose de fondamentalement humain et de profondément et de nécessaire chez l'humain. C'est ça que vous voulez dire aussi?
Absolument, et qui est vraiment dans l'émergence. Et je pense qu'en regardant, en se laissant affecter par les œuvres d'art, à la fois d'artistes et d'impatients, on peut avoir une chance de retourner à ce mouvement en nous, qu'on a beaucoup moins, je dirais, l'occasion, je dirais, d'expérimenter ou donc de faire l'expérience dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment une chance, en venant ici, de se laisser déstabiliser. Et donc, indépendamment de toute catégorie, d'essayer de voir à l'intérieur de nous ce que ça éveille de notre propre énigmatique, en s'exposant à ce mouvement de l'art.
Mon nom, c'est José Bernard et je fais partie des impatients. J'avais besoin de quelque chose comme d'aussi tranchant qu'un couteau pour pouvoir dire des affaires. Puis j'ai découvert que c'est ça, c'est pas à travers les couteaux. C'est vraiment à travers le dessin que ça peut être libérateur. Quand je dessine, moi, je mets sur la feuille toute mon angoisse, toutes mes frustrations, mes peurs. Puis là, on arrive, on monte notre dessin. Puis là, le Michel Boucher, qui est comme une éducatrice, ou je sais pas comment on peut l'appeler, elle interprète, elle va toujours chercher le beau. Puis, oh oui, mais regarde, comment ton nuage noir, il est beau. Puis, oh, mais regarde ça.
Ça fait 10 ans donc, que vous faites, donc, vous êtes aux impatients. La façon de dessiner que vous aviez au début et de peindre, puis que vous avez maintenant, comment ça a évolué? Simplement, je dirais, au point de vue artistique, là, comment vous faisiez ça au début, puis aujourd'hui?
Bien, premièrement, j'ai commencé par mettre de la couleur. J'ai mis de la couleur. Puis
ça, c'est récent?
Oui, c'est récent, ça. Oui, c'est récent. Puis avant, mes bonhommes, je faisais toujours mes bonhommes avec pas d'oreilles. Parce que je me disais, ça sert à rien de faire des oreilles parce que personne n'écoute. Puis là, je me suis surpris à faire des oreilles. Fait que finalement, là, on est écouté. Puis c'est ça. l'art apporte une certaine reconnaissance. Puis on a tous besoin de ça, de se sentir spécial.
On dit art-thérapie. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne thérapie pour vous, ce que vous faites ici?
Je vous dirais que c'est la meilleure thérapie parce que tout le temps que j'ai eu les médicaments, ça l'enlève le goût de... Ça l'enlève tout et comme on n'a plus de stress, on n'a plus d'angoisse, mais ça l'enlève aussi le goût de vivre. On est gelé, puis c'est comme on peut pas penser à demain, parce que demain est gelé. Là, ça le fait que, justement, j'ai compris que, pour moi, les pelules, c'était pas l'affaire, c'était vraiment le dessin qui est plus thérapeutique.
Les crayons de couleur et la peinture plutôt que les pilules.
Que oui. Puis même, je dis qu'on devrait plus se pencher, puis l'offrir plus, ça. De ce service-là parce que ça guérit, l'art guérit. Parce qu'on peut pas toujours faire du noir. Veut pas un moment donné, sans qu'on s'en aperçoit, le jaune arrive, le blanc, puis là, c'est là qu'on voit la fameuse lumière au bout du tunnel, là, ben c'est ça, c'est de la couleur. C'est ça, c'est que je me sens pas comme une maladie. Je me sens vraiment comme une impatiente que juste out. Je suis impatiente que justement un jour on arrive toutes à plus mettre des barrières sur des. Tu sais, mettre des enfermés, fou à les enfermer. Tu sais, c'est tellement dommage, ça.
C'était un reportage de Yannick Villedieu réalisé à la Galerie des Impatients à Montréal.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Les projets d'aménagement de parcs éoliens sont dans l'air du temps, entre autres en Gaspésie, où le gouvernement a donné tout récemment son feu vert aux projets de Montagne Sèche et de Gros Morne. Cela étant dit, le Québec et le Canada sont bien loin derrière quand on les compare à des pays comme le Danemark ou l'Espagne qui ont investi massivement depuis des années dans cette énergie propre et renouvelable. L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique. C'est le titre d'un livre paru aux éditions Multimonde. Le livre est co-signé par Bernard Saunier et Réal Reed, deux ingénieurs qui ont travaillé durant plus de 20 ans à l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Hugues de Roussan s'est entretenu avec un des auteurs, Bernard Saunier, un partisan avoué de la filière éolienne. Le Québec possède, il faut le dire, le deuxième gisement éolien en importance au monde. Et Bernard Saunier est convaincu qu'il faut exploiter ce potentiel qui, selon lui, est tout à fait concurrentiel, voire même moins cher que l'hydroélectricité.
Le gisement est aussi fantastique que ça en termes de potentiel estimé. On parle de gisement éolien, oui. La capacité de 100 fois la production hydroélectrique actuellement exploitée au Québec. C'est une ressource d'une importance sans égale parmi toutes les sources énergétiques sur lesquelles on peut compter au Québec.
Là, on parle vraiment d'un potentiel. C'est comme, par exemple, on ne peut pas harnacher toutes les rivières de la province pour y construire des barrages. Alors, quand on parle de potentiel, c'est si on prenait tout le vent disponible. Mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Effectivement, oui, on n'occupera pas tout ce territoire, mais 100 fois le volume de production hydroélectrique actuel, ça représente quand même une masse fantastique. Si on exploitait qu'un pour cent de ça, on aurait quand même l'équivalent de la production hydroélectrique.
L'énergie éolienne, c'est propre, c'est renouvelable, c'est illimité, c'est un environnement, un impact environnemental quasi nul, à un coût tout à fait compétitif par rapport à l'hydroélectricité. Pourquoi ça prend tant de temps à l'éolienne pour faire sa place?
Ça, c'est la question à $1 million.
Allez-y.
C'est probablement des explications sociologiques qu'on peut trouver à ça, mais on a plutôt tenté de présenter tous les enjeux reliés au monde de l'énergie en utilisant l'éolien comme exemple, qui est une filière relativement récente, qui pendant plusieurs années n'a pas été vraiment considérée avec beaucoup de sérieux, mais qui depuis 15 ans a progressé de façon absolument fantastique en termes technologiques, et qui occupe dans plusieurs réseaux du monde une place importante dans les approvisionnements énergétiques des populations. On pense au Danemark, on pense
à l'Espagne,
par exemple, qui sont des pays qui montrent vraiment le chemin sur cette voie-là et qui indiquent très clairement qu'on peut arriver à des pénétrations éoliennes importantes en termes de production énergétique sur le bilan total consommé dans un pays, sans causer de commotion particulière sur le réseau électrique. Donc, il est clair que l'éolien est là pour rester, qu'il est en progression, on peut dire, vraiment très rapide. On parle de 100 000 mégawatts pour 2012 de production éolienne installée dans le monde. Alors, c'est quand même très considérable, considérant que à partir des années 80, il n'y avait presque rien.
Oui, 10 fois plus pour 2020. Les prévisions sont pour 1 million de mégawatts en 2020.
Absolument.
La technologie a évolué beaucoup ces dernières années. Juste quelques chiffres. En 1985, les éoliennes avaient 15 mètres de hauteur et une puissance de 50 kilowatts. Aujourd'hui, on va vers 150 mètres de hauteur, plus de 50 mégawatts, 80 mégawatts même. Où est-ce que ça va s'arrêter?
Ce qui est intéressant de noter avec cette progression très rapide, c'est que à mesure que les éoliennes sont conçues pour opérer à une plus grande hauteur, à mesure qu'on apprend à exploiter cette ressource-là et cette technologie-là, on lui voit de plus en plus d'intérêt et d'avantages, avec des coûts qui sont toujours réduits. Les machines, à mesure qu'elles grossissent, le coût unitaire du kilowattheure produit diminue. C'est une question de réduction de coûts du kilowattheure produit qui est le principal levier de tous ces développements. Oui.
Il y a un mythe tenace, ça revient régulièrement dans les conversations, surtout pour ceux qui s'opposent à l'énergie éolienne. On dit que l'énergie éolienne n'est pas fiable, qu'on peut pas garantir l'approvisionnement en vent, parce que c'est vrai qu'ils vendent pas toujours à la même vitesse et des fois, ils vendent pas du tout. Est-ce que c'est un argument qui tient?
Disons qu'actuellement, il y a une espèce de fossé rempli de légendes urbaines sur l'énergie éolienne. Évidemment que l'éolienne est une source d'énergie qui est très, très fiable. Elle est au moins aussi fiable que n'importe quelle autre filière de production. Simplement, il faut apprendre à jouer avec, à l'exploiter comme il le faut. On parle, par exemple, extrêmement fréquemment au Québec et ailleurs aussi de l'intermittence de l'éolien. Mais ça, c'est le mythe absolu. Le vent n'est absolument pas intermittent. Le vent qui arrive sur un territoire où une centrale éolienne est en exploitation arrive par une masse d'air froid ou d'air chaud et balaie le territoire pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours, et éventuellement se retire. Donc, on voit la production éolienne monter, se maintenir et se retirer. Donc, dans la mesure où on peut faire la prévision de ce phénomène, et on le fait très bien avec toute la prévision météorologique qui existe aujourd'hui, il est possible de gérer, d'intégrer ça tout à fait correctement. L'idée qu'une centrale éolienne pourrait perdre sa puissance instantanément est un mythe également total. Rien de cela ne peut se passer dans la réalité parce que le vent ne se comporte pas de cette façon-là. Peut-être localement, il peut arriver un front de vent, mais ce front de vent-là ne touche jamais une centrale éolienne constituée de plusieurs centaines de machines, peut-être. Encore moins un paquet d'éoliennes qui serait réparti à plusieurs endroits dans
un territoire. Sur un territoire, oui.
Il est assez clair pour moi que l'intermittence dont on parle en termes d'exploitation du réseau ne s'applique absolument pas à la filière éolienne.
L'énergie éolienne, c'est un nouveau concurrent sur le marché. La tarte aux pommes, elle n'est pas plus grande, plus petite qu'avant, mais il y a un nouveau joueur qui arrive sur le marché, donc il va prendre des parts de marché des autres énergies. En Europe, pour s'assurer que l'éolienne prenne une place dans le marché, on a instauré des programmes d'achat. On a instauré également des programmes de prix garantis pour s'assurer que les gens qui produisent trop d'énergie puissent le vendre aux grands réseaux qui rachètent cette énergie-là. Est-ce que c'est ça le bon moyen pour instaurer et implanter un réseau énergétique éolien?
C'est le moyen historiquement qui a permis l'émergence de la filière éolienne. C'est le moyen qu'a choisi d'abord le Danemark dans les années 73, à l'époque où les Danois marchaient sur les autoroutes à cause des restrictions qu'ils avaient d'utilisation du pétrole disponible chez eux. Ils ont pris ce moyen qui était obliger les compagnies d'électricité à acheter l'électricité éolienne produite par des producteurs indépendants, individus ou coopératives ou...
compagnies ou peu importe.
Ou compagnies. Et donc, l'évolution était très rapide à cette époque-là et elle était essentiellement générée, oui, par cet attrait économique qui existait pour des producteurs indépendants. Bon, l'Allemagne a suivi, la France a suivi, l'Espagne, plus récemment, du côté canadien, en Ontario. Oui, c'est un moyen de développer, il en existe d'autres. Aux États-Unis, traditionnellement, l'approche en était une où on favorisait la compétition entre différents promoteurs pour s'approprier certains quotas de production. C'est l'approche que le Québec a choisie.
On parle d'intégrer ces énergies éoliennes au réseau actuel. Est-ce que ça risque pas de surcharger le réseau?
Les limites de la pénétration éolienne, en réalité, ne sont limitées que par des questions d'économique. Mais techniquement, on peut intégrer une très forte proportion d'éoliennes dans un réseau sans causer aucune déstabilité. Il s'agit simplement d'assurer en tout temps l'équilibre entre ce qui est produit et ce qui est consommé.
Est-ce qu'il y a un chiffre magique? En Europe, l'expérience semble dire que c'est autour de 30 % jusqu'à 30 % de taux de pénétration de l'éolienne. Le réseau actuel dans les pays peut très bien absorber ce surplus d'énergie. Après 30 % ça commence à être un peu plus délicat et il faut procéder à des modifications.
Effectivement, jusqu'à 20 à 30 on considère que les impacts de coûts pour accepter ce volume de sources d'énergie renouvelable, par exemple, n'est pas très important, quoi.
Dans une région comme la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, éventuellement vers 2015, ce seront deux régions qui seront complètement autonomes. Ne dépendront plus du réseau hydroélectrique québécois parce qu'ils vont produire leur propre électricité par l'éolienne et même vont dégager les surplus qu'ils pourront vendre au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis.
Votre question est bonne si on l'examine dans un bilan annuel. La production énergétique d'une région comme la Gaspésie en 2015, selon le plan d'implantation d'énergie éolienne, va répondre à tous les besoins de la Gaspésie et il va en avoir pour l'exportation. Maintenant, au jour le jour, il peut arriver que le vent étant absent, bon, cette région-là va être alimentée par le grand réseau à partir du réseau d'Hydro-Québec. Tout ça est interrelié. Donc, si on considère la Gaspésie, comme vous dites, comme une région, effectivement, son bilan net fait en sorte qu'elle serait probablement la première région de production d'énergie verte en Amérique du Nord, certainement, en 2015, et que les niveaux de pénétration éolienne à certaines heures dans la région gaspésienne dépasseront les 100 %. On parlait du Danemark à 20, mais la Gaspésie pourrait dire, ben nous, globalement, sur l'année, on produit plus que ce qu'on consomme.
Un facteur en faveur de l'éolienne, c'est la bourse du carbone. Mm-hmm. Éventuellement, ça va générer beaucoup de revenus, puisque l'énergie éolienne ne pollue pas, ne crée pas de gaz à effet de serre, et on va pouvoir vendre des crédits très chers.
$43,80 de la tonne, ça correspond, si on traduit sur une base de kilowattheure, qui est quand même la référence universelle, si on veut, de chaque abonné, parce que c'est comme ça que la facturation de la consommation énergétique arrive.
C'est ce qu'on voit sur la facture quand on la regarde.
$43,80 par tonne de CO2, ça représente 4,38 cents du kilowattheure.
C'est ça.
Presque exactement. Donc, on est là dans un élément de valorisation économique fort significatif, parce que ça veut dire que si ce marché du CO2 se met en place aux États-Unis, il semble bien que ça va se faire, c'est qu'une question de temps, mais tout est engagé dans des États particuliers, mais même à l'échelle fédérale maintenant, du côté des Américains. Ça donne déjà l'indication qu'on pourra compter dans nos bilans sur des revenus équivalents à 4,38 cents du kilowattheure de plus, ne serait-ce que par la valeur environnementale de cette énergie qui ne produit pas de gaz.
Ça veut dire que chaque kilowattheure produit pourra rapporter 438, diminuant d'autant le coût de production?
Exactement. Le coût de production, selon les modes conventionnels, quand on exclut tous les trucs, les aspects de valorisation environnementale, une fois qu'on réussit à engranger, si on veut, la valeur environnementale sur les marchés de bourse du carbone, le coût tombe à 5 sous. Ah, ça devient un avantage très considérable pour la filière éolienne, mais puis c'est aussi un des facteurs qui font qu'en Europe, la progression continue.
Est-ce que ça existe encore, le syndrome pas dans ma cour, ou la crainte du bruit, parce que jusqu'à, disons, 500 mètres, on estime à 40 décibels le niveau de bruit qui vient des éoliennes. Est-ce que ce sont des arguments qui peuvent alimenter des craintes ou même amener un refus d'un projet d'installation d'une centrale ou d'un projet éolien?
Dans votre question, je retiens la mention d'un critère, 40 dB à 500 mètres. Ça, c'est une mesure objective qui permet vraiment de qualifier le niveau de bruit tolérable à un certain endroit.
Oui, 40 décibels, c'est le bruit ambiant dans une région chambre, rurale ou dans une chambre à coucher.
Quelque chose de très calme, en fait. Hein? Il existe des normes exactement semblables dans toutes les municipalités, par exemple, pour régir le bruit d'un moteur de piscine mm-hmm. ou d'une pompe à chaleur, d'un climatiseur chez le voisin. Donc, voilà des critères objectifs qui, en réalité, règlent d'un point de vue juridique, la question du bruit.
La question visuelle, une belle tour de 150 mètres dans un champ, là.
Au niveau du paysage, avec le gisement phénoménal qui existe au Québec, on pourrait produire toute l'énergie qu'on consomme en électricité à l'heure actuelle et personne ne saurait d'où ça vient, parce que personne ne pourrait
y accéder. Sans qu'on voit.
Sans qu'on les voit. Et puis, généralement, une fois qu'un projet éolien a été mis en place, exploité, on trouve statistiquement, et on documente ça dans le livre, que les populations sont assez, généralement, à très fort pourcentage, très heureuses du résultat. Aucun impact n'est visible sur, par exemple, le prix des propriétés, dont on croyait qu'elles pouvaient être singulièrement affectées mm-hmm. en termes de prix par l'apparition d'une centrale éolienne à côté. Donc, il y a une sorte de convivialité qui se met en place, et puis on les voit pas plus qu'on ne voit aujourd'hui, par exemple, les poteaux de distribution dans la cour de chaque personne, ou... Des lignes de transport qui sont nécessaires pour acheminer l'électricité. Donc, oui, l'éolien est appelé à prendre une place de plus en plus importante. On pourrait imaginer facilement, oui, qu'au Québec, on est dans un terme de 20-25 ans, 10-15% d'énergie éolienne dans le réseau, et ça serait parfaitement gérable avec... Et très facilement gérable avec les atouts considérables que représentent les actifs hydroélectriques.
En terminant, je rappelle le titre du livre, « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique », un livre qui était co-signé par Ariel Reid et Bernard Saunier. Merci, M. Saunier, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ce soir, à Parc Quatre Chemins, qu'est-ce que vous avez pour nous, Jacques Languirand?
Eh bien, pour terminer la saison en beauté, puisque c'est le cas, alors 2 heures en compagnie de Carl Jung, le grand psychologue du siècle passé, et aussi le père spirituel, on pourrait dire.
Merci beaucoup, Jacques. On vous souhaite un très bel été, donc vous me donnez rendez-vous ce soir 20h à la première chaîne. Et quant à nous, c'est ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière, réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique Pierre Lévesque. Je remercie tous les journalistes et je vous signale que la semaine prochaine, un rendez-vous à ne pas manquer. On vous présente une émission primée par l'Association canadienne des rédacteurs scientifiques, La Science en Nouvelle-France. En rappel donc, pour souligner le 400e anniversaire de la Ville de Québec, une émission qui vient de remporter un prix important. Ici Chantal Srivastava, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez des nôtres pour cette édition spéciale. Au revoir.